à tous. Donc c'est un constat terrible. Alors moi je suis professeur de lettres classiques et de plus en plus seulement de latin et de grec. Voilà, autre chose qui se fait rare aujourd'hui. Donc je m'occupe tout le temps en permanence de latin et de grec. J'enseigne en classe préparatoire, en supérieur, et je travaille aussi parallèlement pour un institut qui s'appelle l'Institut Polis, du grec polis, la cité. Institut qui a été fondé par un helléniste français qui s'appelle Christophe Ricot, à Jérusalem, figurez-vous, et qui organise des stages intensifs de 2-3 semaines, l'été, aussi dans l'année, ici et là. Donc moi je travaille par exemple pour un stage au mois de juillet à Rome, où en assez peu de temps, selon des méthodes dont je vais brièvement vous parler et dont tout à l'heure je ferai une démonstration pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Donc des méthodes qui sont des méthodes actives et qui prétendent permettre un accès plus rapide et plus facile à ce patrimoine. Alors moi j'avais prévu, en rapport avec l'auditoire d'aujourd'hui, de parler moi je préfère dire, plutôt que le latin et le grec, je préfère employer un beau mot que mon camarade a prononcé, hein, qui est l'homme, c'est-à-dire les humanités. Les humanités, parce que ça va plus loin que simplement le latin et le grec, un peu plus loin. Et je me suis interrogé donc sur le rapport des humanités avec l'esprit d'entreprise. Parce que finalement, je crois que c'est étroitement lié, si on prend les choses au sens un peu large. Donc, constat terrible sur le théâtre, dont je n'avais pas conscience de l'ampleur, s'agissant d'un art que j'aime beaucoup, le théâtre, à qui a été brillamment illustré par les gens de l'Antiquité, par le théâtre grec, le théâtre latin. On a parlé de l'avare. L'avare vient d'une pièce latine de Plaute, du 3e siècle avant Jésus-Christ. Laquelle pièce venait elle-même d'une pièce grecque, probablement. Donc, je suis sensible à ce constat qui, pour moi, est est à situer dans une crise de civilisation beaucoup plus large. Donc, avec cette passion qui nous anime chacun dans notre partie, je pense qu'on a un rôle à jouer, lucidité, hein, mais toujours l'énergie qu'il fallait de l'avant, et puis rien n'est fini. Et précisément, cette question des humanités est associé, comme vous le savez historiquement, à l'humanisme, lequel est associé à l'idée de renaissance. Et toujours, cette question a été liée à des crises et des renaissances. C'est la vie, c'est le destin des arts. N'est-ce pas ? Alors, l'esprit d'entreprise. Je me suis intéressé sur les qualités les qualités humaines qui sont à la base de l'esprit d'entreprise. Alors, il m'était venu une notion qui m'a été amplement confirmée tout à l'heure par la visite que j'ai faite dans l'entreprise de Monsieur Neveu, ici présent, et par les propos que vous-même vous avez tenus. Il y a un terme qui est revenu sans cesse, monsieur, c'est créativité. La créativité. Voilà, à mon avis, un des premiers éléments de l'esprit d'entreprise. La créativité, c'est-à-dire l'art de résoudre les problèmes qui se présentent. Ce n'est pas seulement la création artistique, c'est des problèmes qui se présentent et l'art d'inventer les solutions à ces problèmes. L'énergie, la clarté et l'éthique. Voilà, créativité, énergie, clarté et éthique. Ce sont les quatre grandes qualités qui, à mon avis, président à l'esprit d'entreprise. Et je les exprime en termes modernes, mais je les ai trouvés dans les textes. Et je les ai trouvés en particulier dans un auteur que je lis en ce moment, qui est Sénèque. Alors Sénèque, philosophe du temps de Néron, philosophe, disons, d'inspiration stoïcienne, et aussi homme de théâtre, d'ailleurs, qui a utilisé le théâtre pour montrer sa philosophie. Un ouvrage de Sénèque qui est connu, qui s'appelle « Le traité de la clémence » des Clementia. Et la clémence, nous dit Sénèque, c'est la vertu idéale du prince. C'est la vertu idéale du prince, l'art de pardonner. Bien sûr, ça renvoie à une société monarchique avec une toute puissance du prince. Et donc il valait mieux que ça se passe bien. Parce que si le prince est un tyran, ce sont des catastrophes, des exécutions, n'est-ce pas ? Donc il y a une vision étroite de la clémence en régime monarchique. Mais en réalité, ça va plus loin. La clémence, c'est simplement la bienveillance humaine dans l'exercice des responsabilités. Alors, je postule que ces quatre qualités sont étroitement associées à la notion donc, d'humanisme. Alors, qu'est-ce que l'humanisme ? Je vais essayer de le définir brièvement. Bien sûr, c'est une notion de la Renaissance, hein, l'humanisme de la Renaissance. Bon. Mais en réalité, c'est une notion qui existe en latin et qui existe dans l'Antiquité, en grec aussi. En grec, il y a un mot, c'est philanthropie. Philanthropia. Et en latin, c'est tout simplement le mot humanité, humanitas, au singulier. Et c'est un mot qui a beaucoup intéressé un des plus grands auteurs latins, qui est Cicéron, qui peut-être même représente le latin. On dit le français c'est la langue de Molière, le latin c'est la langue de Cicéron, l'orateur de la fin de la République. Et alors dans ses ouvrages, il définit l'humanité comme suit. C'est d'abord, l'humanité, enfin l'humanisme, c'est l'art de s'exprimer. L'art de s'exprimer, c'est-à-dire... acquérir une expertise dans l'art de s'exprimer, par tous les arts de la parole et de l'expression. La rhétorique, c'était l'art numéro un. Mais enfin, la rhétorique, la poétique, tous les arts de l'expression. L'art de s'exprimer, lequel va permettre l'art de penser, et enfin, l'art d'agir. N'est-ce pas ? Mais d'abord, ce qui est premier, c'est l'art de s'exprimer. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui dans la crise de civilisation. On pense que l'art de s'exprimer est quelque chose de superfétatoire, de secondaire, un ornement, quelque chose en plus, alors que c'est à la base. Il faut revoir, je pense, la hiérarchie. Art de s'exprimer, art de penser, art d'agir en fin de course. Et le deuxième point, la deuxième idée sur l'humanisme, c'est que c'est un universalisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une notion de l'homme en général, un universalisme, quelque chose qui soit communicable à l'ensemble de l'humanité, n'est-ce pas ? Alors cet universalisme pour Cicéron, il passe par l'étude d'une grande langue de culture qui est le grec pour lui, n'est-ce pas ? La civilisation romaine a été une civilisation bilingue, gréco-romaine. Hein, il y a un bon livre de Paul Veyne, de l'historien romain Paul Veyne, qui s'intitule « L'Empire gréco-romain ». En réalité, le monde romain était un monde bilingue, était un monde gréco-romain. Universalisme, donc, dans une langue universelle de transmission culturelle. Alors, pour nous, l'humanisme de la Renaissance, l'humanisme du XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, c'est les deux langues de cet universalisme qui sont le latin et le grec. Et j'ai vu que récemment, il y a eu un débat en Tunisie, je crois que c'est la semaine dernière, pour savoir si on allait renoncer au français comme première langue étudiée dans le système éducatif tunisien, et si on n'allait pas la remplacer par l'anglais. il y avait un ministre de l'éducation, je crois, qui proposait de balayer le français et de le remplacer par l'anglais. Et Dieu merci, il n'y a pas que des constats terribles, cette proposition a été rejetée. On a décidé de maintenir le français. Et il y a eu des choses très intéressantes qui se sont écrites là-dessus. J'ai lu un article d'un intellectuel tunisien sur ce point, et qui disait que le français est intéressant à bien des égards, sur le plan économique, relations avec les autres pays de l'Afrique francophone, etc., sur le plan pratique. Mais il disait qu'en définitive, le plus important, c'était, et c'est un Tunisien qui l'écrivait, pas un Français, franchouillard, chauvin, un Tunisien, qui disait que le français est une langue universelle. C'est la langue des Lumières, c'est la langue qui a transmis les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Le français aussi a cette vocation à l'universalisme. Et l'anglais est une langue que j'admire, que j'adore, une grande, une très belle langue littéraire, mais l'anglais n'a pas l'universalisme. Et dans cette crise de civilisation d'aujourd'hui, vous avez ce problème d'une langue qui est une langue de communication universelle et qui n'a pas dans son système de valeurs l'universalisme. Et qui est donc est apprise comme langue utilitaire, coupée de toute, de toute référence littéraire, coupée de toute référence historique, n'est-ce pas? Et ça, ça participe de la crise d'aujourd'hui. Donc, le retour aux humanités, c'est en définitive le retour à ces langues universelles qui sont latin, grec, et je le dis sans chauvinisme aucun, le français aussi. Et il y a aussi une question politique. Récemment, un candidat à la magistrature suprême est allé à Berlin et a fait un discours en anglais dans une Europe qui s'est coupée de la Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est dire si cet anglais est devenu, voyez, la langue, pourquoi pas en allemand, pourquoi pas en français. J'aurais pas été choqué s'il avait fait son discours en allemand. Je suis choqué qu'il n'ait choisi ni l'allemand, ni la langue du peuple auquel il s'adressait, ni la sienne qui a vocation à être langue universelle. Et l'anglais, sans aucune relation avec la réalité politique d'aujourd'hui, d'une Europe sans pays, en tout cas presque sans pays anglophone. N'est-ce pas? C'est dire s'il y a cette conception de la langue comme un outil, des idées de sa culture, voilà la crise de civilisation à laquelle permettent de répondre les humanités. Alors, les qualités dont puis je terminerai là-dessus, puis s'il y a des questions, j'y répondrai. Créativité, énergie, clarté, éthique. Ces qualités sont des produits de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Pour moi, il n'y a pas une seule intelligence, il y a des formes d'intelligence, différentes formes d'intelligence. Et il m'apparaît que ces formes d'intelligence sont hautement exercées par les humanités. C'est-à-dire l'étude, vous l'avez compris, l'étude de langues qui ont en elles une exigence littéraire, philosophique, qui leur permet de diffuser un message universelle d'une façon satisfaisante, d'une façon complexe, qui ne soit pas simplement utilitaire. Donc, l'étude approfondie de la langue. D'abord, l'art de s'exprimer. Alors, formes d'intelligence, quelles sont-elles? La logique, l'intelligence logique. Il se trouve que le latin et le grec, comme vous savez, sont des langues à déclinaison, qui supposent un esprit d'analyse très poussé pour reconnaître les rapports grammaticaux. On ne peut pas les apprendre en faisant abstraction de l'analyse grammaticale, n'est-ce pas? Donc, les humanités stimulent la logique. Il y a aussi l'intelligence du corps, savoir mouvoir son corps, savoir poser sa voix, savoir utiliser toutes les ressources corporelles qui sont à notre disposition, pour nous exprimer de la façon la plus satisfaisante possible. Eh bien, elles aussi sont stimulées par l'étude des humanités, qui, bien comprises, passent par l'oral. C'est pourquoi la méthode Polis, essaye de révolutionner l'étude du latin et du grec, des langues dites langues mortes, par le retour de l'oral, en faisant de l'oral le moyen privilégié de l'apprentissage. Il y a le sens esthétique aussi qui est une forme d'intelligence, à mon avis. On a parlé, monsieur, de l'art en entreprise. Vous avez fait venir un photographe pour, avec de très belles photos, je pense. J'ai découvert l'un de vos ouvriers, d'abord par une photo magnifique. Le monsieur qui travaillait à l'usinage des moules, hein, dans la partie mécanique. Ce monsieur qui a 60 ans et qui aime son métier, n'est-ce pas ? Et j'ai découvert cet homme, cet ouvrier, d'abord par cette photo très belle. Que montrait cette photo ? L'extraordinaire noblesse de son travail, et l'extraordinaire beauté de cet homme au travail, dans son attention, dans le souci du geste, de la précision. Et après, j'ai été vers cet homme, et cet homme, je l'aimais, et je lui ai parlé, et on s'est tout de suite compris et très bien entendu. Alors, le sens esthétique est stimulé par l'étude du latin et du grec. Et entendu comme active orale, c'est-à-dire qu'on travaille la diction, la déclamation, le chant. Je n'étudie plus avec mes étudiants une poésie sans que nous la déclamions et nous la chantions. C'est tout à fait envisageable. Sens esthétique aussi, parce que précisément ces langues universelles l'ont été pour les grandes œuvres qu'elles véhiculaient et pour le style, la beauté du style qu'elles développaient. Par conséquent, nous étudions des grandes œuvres où le sens esthétique prime sur le reste. Dans les formes d'intelligence, je crois qu'il y a la volonté aussi. La volonté, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne le goût du dépassement de nous-mêmes, le goût de la grandeur. Alors ça aussi, les humanités nous en donnent le sens. Elles ont réfléchi sur la grandeur humaine. Je cite seulement une œuvre très connue, c'est l'œuvre de Plutarque, qui d'ailleurs a inspiré une très grande partie du théâtre de Shakespeare, a inspiré aussi toute l'œuvre de Montaigne, tous ces exemples que l'on trouve chez Montaigne, et qui s'intitule « Les vies parallèles des hommes illustres », c'est-à-dire qu'on prend des grands hommes du monde grec et du monde romain. Plutarque raconte leur vie en insistant justement sur les qualités, créativité, énergie, clarté, éthique, et en les comparant. Lequel a été plus ceci, plus cela ? Lequel, finalement, a mieux réalisé l'idéal d'humanité ? Voyez ? Donc, le sens de la grandeur nous est communiqué par les humanités. La sagesse. Alors, qu'est-ce que la sagesse, brièvement ? Bien sûr, on pourrait en parler des années, une vie durant, et plusieurs vies alignées les unes à côté des autres. Mais ça a été résumé, je crois, assez bien, par la formule « connais-toi toi-même ». Qui était inscrite au fronton du temple de Delphes et qui est devenue la devise de Socrate. Et dans les dialogues de Platon, on s'aperçoit que c'est connais-toi toi-même, mais connais aussi les autres. Et apprends à connaître ce que tu sais vraiment et ce que tu ne sais pas. Alors, ça aussi, on l'apprend dans l'étude du latin et du grec par la méthode orale, puisque amené à s'exprimer dans cette langue-là, on est toujours obligé de faire le point de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas. Mes étudiants, souvent, amenés à s'exprimer, me demandent « Mais comment on dit ça ? Comment on dit ça ? Comment on dit ça ?» Je dis « Vous le savez. Vous le savez. Utilisez des mots simples. Utilisez les mots simples que vous connaissez et vous irez ensuite vers de plus en plus de complexité. Mais d'abord, soyez conscient de ce que vous savez. En réalité, vous le savez le dire. Peut-être un peu autrement, peut-être. Et ça fait appel à la créativité. » Et enfin, je dirais, une autre forme d'intelligence, c'est la coopération. Alors, les humanités, par leur contenu, nous montrent une très haute réflexion politique. Je dirais, le degré suprême de la coopération, c'est la politique, la vie en société constituée politiquement. Et puis, les méthodes de travail de police aussi sont fondées sur la coopération maximum entre les étudiants, la possibilité de converser par groupe d'apprendre ensemble. Voilà. Donc, j'en termine là. Je dirais que, pour me résumer, on trouve dans les humanités, hein, prises au sens large que j'ai dit, sur le fond des exemples de vertu. Là, je traduis, hein, je fais un latinisme. Exempla virtutis. Des exemples de grands hommes, de grands poètes, de grands philosophes, s'étant exprimés dans une forme très belle qui a traversé les siècles et qui a été pieusement conservée. Ça, c'est le fond. Et sur la forme, je pense que pour sauver les humanités, il faudra en passer par des méthodes actives, fondées sur l'immersion, fondées sur la coopération et fondées sur l'oral. Voilà. Excusez-moi, c'est peut-être un peu dense, mais je pourrais éclaircir certaines choses s'il y a des questions.
Merci de votre intervention.